Bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Mistral. On se retrouve pour une nouvelle émission de 100% foot et c'est la rentrée. Après cette trêve, on est de retour pour saluer les joueurs de l'Olympique de Marseille qui font leur retour sur la scène nationale et internationale avec la Ligue des Champions. Et on va longuement en parler en compagnie de mes deux acolytes qui ont déjà repris du service depuis quelques temps. Je salue Patrick et Franck qui nous font l'amitié d'être toujours parmi nous. Bonjour les gars.
Bonjour Patrick, bonjour Thierry.
Salut Thierry.
Grand plaisir de te retrouver parmi nous.
Eh ben, plaisir partagé, voilà, on est reparti pour une saison de plus belle et on espère que pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, ce sera une belle et grande saison, tant sur le plan national qu'international, avec cette Coupe d'Europe et cette Ligue des Champions qui a démarré hier. Et on va y revenir en grande partie sur ce match et ce déplacement au Bernabéu face au Real Madrid. Ouais, ouais. Voilà, mais une fois n'est pas coutume, on va attaquer, vous en avez l'habitude, avec le national et le club de Aubagne Herbelle qui jouait vendredi soir pour le compte de la 6e journée de ce championnat de national et les Sommes de Sergio Santos se sont imposés 2-1 sur la pelouse du Quevilly-Rouen.
Quevilly-Rouen, ouais, voilà. Absolument. Oui. Avec deux jolis buts, je viens de le signaler, parce que le match n'a pas été formidable en soi, mais bon, un but de Mabila à 9e minute et de Chaban à la 83e pour clôturer cette victoire d'Aubagne Herbelle.
Voilà, ben, pour cette équipe d'Aubagne Herbelle qui est actuellement 8e avec 8 points, il y aura un...
Ouais, 7e exact, 8e, ouais. Voilà.
Wow. Il y aura un match un peu plus compliqué avec le dauphin de ce championnat, FC Versailles.
FC Versailles, oui, voilà, en date du vendredi 19, voilà. À 19h30, toujours à Delattre-Tassigny, à domicile pour Aubagne Herbelle.
Voilà. Mais Versailles qui s'est imposé, soulignons-le, 4-0 face à Concarneau, ouais, lors de cette journée de National.
Mm-hmm. Concarneau, c'est quand même une équipe solide, oui, de National. Hein. C'est, ouais, une bonne petite équipe. Mais Aubagne, c'était... Là, ils jouaient à Quevilly, qui est dernier, oui, du championnat. Donc, c'était important de prendre les 3 points. Ils l'ont fait.
Avec quelques difficultés, voilà, mais bon, ben, ils ont
mais
su concrétiser.
Mais sérieux, il n'y a pas de match facile. Ouais. C'est une équipe intéressante. Mmh. Tu parlais du buteur Mayila, c'est un, ouais, jeune, ouais, qui, ouais, appartient à Saint-Étienne, mmh, qui a 19 ans, qui est prêté. Un jeune joueur qui s'aguerrit.
Beaucoup de jeunes joueurs.
Voilà. Et c'est intéressant. Ouais. C'est, mmh, un club qui est bien structuré au Magne. Mmh. Ils se font prêter, il y en a deux de l'OM, ils se font prêter les, mmh, jeunes. Et les mecs, ben, national, c'est quand même un niveau un peu intéressant.
C'est un groupe très riche, hein, qu'il va falloir justement bonifier. Ouais.
Dans ce championnat national, on retrouve beaucoup de très bons joueurs et de, oui, très bons jeunes, hein, oui, issus de centres de formation, de clubs, oui, professionnels qui sont en Ligue 1.
Et en l'occurrence, Herbelle qui apporte sa jeunesse également et ses très bons joueurs. Mmh.
Ouais. C'est vrai que cette fusion-là entre le club de Herbelle, qui est un bon club formateur de la région marseillaise, et Aubagne, qui évoluait déjà à ce niveau-là l'an passé, c'est plutôt un bon mix.
L'aventure continue pour cette équipe qui se bonifie.
Mmh. Voilà. Voilà. On leur souhaite le meilleur pour cette saison. Absolument. 2025-26 et on leur souhaite d'aller le plus loin possible et, oui, si possible se maintenir. Voilà. Oui. On va passer au championnat de féminin. Voilà, avec l'OM qui avait été la section féminine de l'Olympique de Marseille qui a eu un début de saison un peu compliqué avec des histoires extra-sportives et un départ anticipé du coach. Ouais.
Voilà, ouais, qui est mis à pied peut-être, je ne sais pas si on va le revoir d'aussitôt. Donc le relais a été pris par Daline Nourifani qui a donc la charge de cette équipe en tant qu'entraîneur, ouais, principal.
Pour l'instant, ils ont première journée, elles jouaient à Lyon, ouais, dont on connaît la valeur.
Ouais. Hein. C'était pas un cadeau. Hein.
Et elles perdent 3-1, mais, ouais, en faisant un bon match.
Absolument.
C'est une défaite encourageante, comme on dit. Même
je
si
tiendrai
c'est,
à souligner, Patrick, la prestation de Mathilde Bourdieu, qui a signé cette année avec l'Olympique de Marseille, qui a marqué le but de l'Olympique, des Olympiennes. C'est, voilà, comme cela qu'on doit les appeler à présent.
Voilà.
Oui.
Voilà. Et d'ailleurs, elles ont été présentées. Et d'ailleurs, il y avait les joueurs de l'Olympique de Marseille qui portaient un maillot spécial à l'occasion de la réception du FC Lorient vendredi soir à l'Orange Vélodrome.
Tu as eu l'occasion donc de les apercevoir autour et sur le stade.
Oui, oui, on leur a fait une belle fête vendredi à l'occasion de cette quatrième journée de Ligue 1 avec la réception du FC Lorient au Vélodrome. Mais c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, on a mis le football féminin à l'honneur de la part de l'ensemble du club et je trouve que c'est une très bonne chose. On espère les voir briller cette saison.
Oui, on ne les verra certainement pas jouer à l'Orange Vélodrome comme les féminines, les Lyonnes, comme elles les appellent, l'Olympique Lyonnais. Ont joué sur le Groupama Stadium, une très grande stade où l'OM a les Olympiades.
Je crois que c'est prévu au stade Francis Turquin.
Oui,
Martigues.
Un stade un peu plus grand et qui pourrait accueillir pas mal de spectateurs. Ouais.
Ouais. Non, mais c'est sûr que tu auras du mal à le Vélodrome. Ben quand ça sonne creux, c'est compliqué. Mais c'est quand même intéressant parce que là, elles ont été présentées avant le match. Et elles avaient été la saison dernière, je crois que c'est le match contre Rennes, le dernier match de l'année.
Oui, dernier match de la saison.
Elles avaient obtenu la montée en Ligue 1 et elles ont fait un tour d'honneur dans le stade, très applaudi. Et c'est bien pour les filles, ça motive, ça te... voilà quoi. Et elles étaient sur la pelouse quand les joueurs rentrent avec jump et tout, bon, c'est ça doit...
Oui, c'est vrai que ça doit faire plaisir et à tout l'état-major olympien de voir cette section féminine retrouver l'élite et être dans ce championnat de...
Il était temps, ça a commencé à dater, quoi. Ouais. Depuis la période de Covid, je crois, 2020, qu'elle n'était plus en première
division. Oui, 2021, voilà. Elles étaient descendues. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places.
Voilà. Oh oui, les places vont être chères, autant dans la division, elles l'ont été, que dans cette équipe qui s'est bien renforcée.
Voilà.
Voilà, ben on en a terminé avec la partie féminine.
Rapidement, Thierry, peut-être, pour souligner la compétition à laquelle elles ont participé.
Oui, je crois que après cette présentation qui était prévue vendredi soir à l'Orange Vélodrome, il y a eu un match de coupe qui s'est déroulé.
Absolument,
pour nos filles.
Il se trouve qu'il y a... J'ignorais qu'il y avait cette Coupe de la Ligue, enfin, un mini-championnat, parce qu'il s'agit donc... il y a 5 poules. Donc, l'OM fait partie d'une poule avec Montpellier, Rodez, Toulouse. Rodez sera le prochain match justement pour les Olympiennes le 21 octobre et il se trouve que pour l'instant elles sont premières de leur poule. Il y a 5 poules au total et seront qualifiées en quart de finale les premiers de chaque poule ainsi que les 3 équipes européennes des féminines, c'est-à-dire l'OL, les Lyonnes, le PSG, le Paris FC. Donc les premières de chaque poule, il y en a 5, pourront participer au quart de finale et on le souhaite de tout cœur pour les Olympiennes.
Et on a l'équipe à gagner à Montpellier, ce qui est un
bon
résultat.
Match, voilà, sur ce match, absolument. Ouais.
C'est Montpellier, c'est une équipe solide.
Voilà. Une fois de plus, avec le but de Mathilde Bourdieu, pour ne pas la citer.
Oui, il va falloir la suivre de près, cette Mathilde Bourdieu. Je pense qu'elle va être amenée à briller tout au long de la saison.
Oh que oui.
Voilà. Avant de refermer cette page féminine, pour nos filles et les Olympiennes, prochain rendez-vous en championnat, ce sera Le Havre, il me semble.
Le Havre, vendredi 19, donc à 21h.
Du côté de Francis Turquin à Martigues.
Oui, apparemment, le domicile sera exfiltré du côté de Martigues, au stade Turquin.
Voilà, on suivra ça de près. Voilà, on va faire rapidement un petit tour avec l'Olympique de Marseille, la Ligue 1. On va revenir brièvement sur ce match gagné face au FC Lorient vendredi dernier, 4-0.
À tous les deux.
Ouais. Voilà. Je vais juste faire un petit récapitulatif concernant cette quatrième journée de Ligue 1 et ensuite on débattra sur la Ligue des Champions et on évoquera la réception du Paris Saint-Germain pour la cinquième journée qui se déplacera dimanche soir à l'Orange Vélodrome. Voilà, ça avait commencé donc vendredi avec la réception, l'OM qui recevait Lorient et qui a gagné 4-0. Samedi, Nice a battu Nantes 1-0. Monaco est allé gagner sur la pelouse de la Baie des Champs face à la JOCR 2-1. Dimanche, Lille a battu Toulouse à domicile 2-1. Le PSG s'est imposé au Parc des Princes 2-0 face au Racing Club de Lens. Metz et Angers ont fait match nul, 1-1 partout. Brest a été battu à domicile face au Paris FC 2-1. Ouais. Belle performance pour les joueurs de Stéphane Gilly. Premier succès de la saison pour le promu francilien. Strasbourg a battu Le Havre 1-0 et enfin en soirée, match de clôture, le Stade Rennais de Habib Bey a battu l'Olympique Lyonnais 3-1.
Eh oui.
Voilà. Un petit...
Bon, y a
vous
eu
vouliez
quelques...
dire quelque chose sur les résultats de cette quatrième journée ?
Quelques dénouements un peu intéressants, enfin, je dirais plutôt des scénarios qui se terminent peut-être pas comme nous l'attendions. J'en veux pour le match de Lille, le match de Strasbourg face au Havre. Donc ça a été un peu une extrémis sur les victoires acquises.
Il y a plusieurs matchs qui se terminent dans les arrêts de jeu avec des équipes comme Rennes qui renversent Rennes, qui renversent Lyon en marquant deux buts dans les arrêts de jeu. Et Lille également, qui le, puisque c'est le frère Mbappé, Ethan, qui marque...
Ethan Mbappé qui revient de blessure.
Oui, qui revient de blessure et qui marque le but de la victoire.
Vraiment, à la fin...
À la 90 plus 8, quoi. Donc c'est vraiment...
On pensait qu'il n'était plus dans les petits papiers de Bruno Genesio pour cette équipe de Lille. Et finalement, il a ressurgi de plus belle lors de ce match face
à Toulouse.
Face à Toulouse, voilà.
Et, voilà. Et sinon, dire un peu sur, par rapport à l'OM, un bon match, facilité par le fait qu'au bout de 10 minutes, il y a un Lorienté qui a l'idée super intelligente de faire un plaquage de rugby à Murillo en pleine surface alors qu'il filait au but.
Donc, pénalty justifié,
pénalty
totalement.
Évident, et mais également carton rouge, et parce que c'est même pas en taclant, en essayant de faire un truc, le mec il a plaqué quoi.
Cela
il
va
se
de
croyait,
soi.
Match de rugby, la Coupe du Monde féminine de rugby. Là.
Ah oui, c'est vrai, toi on y est.
Voilà.
En ce moment,
on est en plein, on est en demi-finale. Ouais. Et donc, évidemment, il a pris rouge. Et donc, tu as joué tout le match à 10, ce qui t'a permis de faire une très bonne première mi-temps et de te balader. Mais qui t'a aussi montré que quand tu joues contre un bloc très bas où tu as 10 mecs qui défendent,
qui a ouvert les espaces, tout à fait. Mais
voilà, tu as énormément de mal à faire le jeu.
Que le bloc était bas en face et c'était assez compliqué. Ouais.
Parce que toute la seconde mi-temps, tu as joué dans leur camp, tu as fait circuler, on aurait dit, du handball. Et par contre, c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. On te dit frapper de loin. Le but de Naïef Aguerd, c'est une frappe de loin, détournée d'ailleurs. Mais
dans le temps additionnel.
Ah oui, voilà, qui t'a fait 4-0, mais tu as passé toute une mi-temps dans leur camp où tu as manqué de dribble, d'action individuelle ou de frappe. Et par contre, tu as fait tourner, tu as eu le ballon, mais...
Et de fluidité dans les périodes offensives, tout cas.
Voilà, tu as eu beaucoup, beaucoup de déchets dans les dernières passes. Et c'est un peu inquiétant parce que l'année passée, on avait déjà remarqué ça. Le mal qu'on a entre les équipes qui jouent bloc bas au Vélodrome, où on a la maîtrise, on tourne, tu n'es jamais à l'abri d'un contre. Par contre, tu as énormément de mal à frapper, à marquer. Quoi, parce que le gardien de Lorient n'a même pas fait un grand match.
Oui, le gardien suisse, Mvogo, a été très peu sollicité.
Il a fait deux, trois bons arrêts, mais enfin, il n'a pas été... Il n'a pas été bombardé, quoi. C'était pas Rouli hier soir contre L'Oréal.
On va y revenir sur la prestation du gardien argentin de l'Olympique de Marseille.
Sinon, tu as eu le ballon, mais tu as été assez stérile en deuxième mi-temps.
Il faut tenir compte du fait que ça a permis à beaucoup de joueurs de nouvelles
recrues. Justement, Franck, tu fais bien, tu me tends la perche parce que je voulais vous écouter et vous entendre sur l'intégration des nouveaux. Parce qu'on sait que c'était le premier match qui suivait cette trêve internationale et il y avait forcément, on scrutait de près beaucoup de nouveaux visages sous le maillot de l'OM avec cette fin de mercato et toutes ces signatures lors de la dernière journée, le 1er septembre dernier. Donc, on parle de l'international marocain Naïef Aguerd, qui n'était pas là hier soir à Madrid.
Malheureusement, mais enfin.
On parle de Facundo Medina, qui était blessé, qui a raté le premier match pour cause de suspension et qui était sur le flanc lors des trois matchs qui ont suivi.
Alors, évidemment, différentes entrées, et ça a permis justement à cette équipe de mettre en place ce qui leur est demandé par notre entraîneur et de faire connaissance plus amplement footballistiquement, parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient absents lors de la phase justement internationale où il y avait le rassemblement de différentes nations.
Oui, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont rentrés au dernier moment, notamment les Sud-Américains, Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi, d'où la titularisation de Geoffrey Delange.
Absolument, pour ce match-là, parce que le retour d'Argentine était quand même pas assez
C'est vrai qu'en plus, les deux ont joué du côté de Guayaquil face à l'Équateur dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Oui, et avec une défaite de l'Argentine d'un but à zéro, l'Argentine qui jouait sans Léo Messi lors de cette dernière journée de qualification pour la Coupe du Monde l'an prochain aux États-Unis.
Si je peux me permettre rapidement, avec une prestation de Balerdi qui faisait très très peur au niveau donc de son équipe nationale, et ce n'est pas ce que nous on verra la transition plus tard, qui n'a pas été le cas hier au soir.
Voilà. Et c'est vrai que Léo Balerdi a été en grande difficulté lors de ce match, et d'ailleurs on peut le souligner pour nos auditeurs, il a occasionné un carton rouge à Nicolas Otamendi, défenseur international argentin du Benfica. Qui s'est fait exclure lors de ce match face aux Équatoriens.
C'est la même situation qu'à Lyon, quand il fait, il est responsable entre guillemets
de l'expulsion d'Egan Reilly.
D'Egan Reilly, parce qu'il lui envoie une passe
plus qu'approximative.
Et le mec, il essaie de tacler et il découpe l'attaquant adverse, dernier défenseur, rouge. Mais ce qui est un peu embêtant quand même, Balerdi, c'est que moi j'ai vu sur l'équipe TV, il montrait le match 2-3 jours après à 14h. Donc je l'avais vu sur le journal, donc j'ai regardé le match. Il ne fait pas un mauvais match. Il fait un match correct, mais il fait deux énormes conneries dans le match.
Malheureusement, c'est vrai qu'il est coutumier du fait, parce qu'on voit qu'à chaque rencontre, que ce soit sous les couleurs de son équipe nationale argentine ou à l'Olympique de Marseille, il fait souvent des erreurs et à chaque fois, ça ne pardonne pas. Ça se transforme en carton rouge ou en but.
Donc Thierry, on pouvait imaginer, nous avons parlé aux émissions précédentes, que Balerdi pouvait justement être une victime entre guillemets du nouveau recrutement défensif
avec l'arrivée de tous ces défenseurs. Je pense à peut-être au changement tactique avec Naïef Aguerre, l'intégration de Facundo Medina, Benjamin Pavard.
Tout à fait.
Mais c'est sûr que d'ailleurs le match contre l'Orient, ta défense, il y avait Murillo qui était le seul ancien. Tu avais en charnière Pavard et Aguerre, et tu avais Medina en revanche. Alors Medina a signé en juin, mais comme il a été blessé,
il était suspendu pour le premier match face à Rennes, et ensuite blessé face au Paris FC et à l'Olympique Lyonnais.
C'était son premier match, ce qui t'explique qu'il est sorti vers un peu plus d'une heure de jeu,
parce qu'il il manquait un peu de rythme, parce que je sais qu'il a repris l'entraînement il y a très peu de temps en compagnie du Brésilien Pachao, arrivé de Feyenoord, qui a raté les premiers matchs de la saison en Ligue 1.
Et Pachao, pareil, ça faisait 2 mois qu'il était blessé, il est rentré contre l'Orient la dernière demi-heure et il a été, tu sens qu'il manque de manque de rythme.
Mais
il
justement,
manque
de c'est très bien.
Il s'était blessé avec Feyenoord et d'ailleurs il n'a pas fait la préparation.
Donc le gars, il n'est pas prêt, on l'a vu hier, il est rentré, il s'est battu, mais...
On va y revenir sur ce match du
Real. Les minutes qu'il fallait pour retrouver du rythme.
Il va lui falloir bien plusieurs semaines pour retrouver le niveau, parce que tu n'as pas fait la préparation, et ça fait 2 mois et demi qu'il n'avait pas joué le gars. Dernier match fin mai.
Je pense que Roberto De Zerbi va essayer de le gérer le staff médical pour qu'il puisse retrouver son meilleur niveau assez rapidement. Et dans les prochaines semaines, on espère voir un grand Pachao sous les couleurs de l'OM.
Mais heureusement,
on l'a recruté pour cela.
Heureusement que c'était Lorient. Parce que ta charnière, ils s'étaient rencontrés le jeudi, la veille du match. Les deux rentrées de sélection, Aguerre du Maroc et Pavard de France.
Naïef Aguerre avait été remis à disposition de l'Olympique de Marseille après le premier match face au
Niger.
Mais c'est vrai, je crois que
le
deuxième match contre la Zambie, je pense qu'il avait été exempté par son sélectionneur Walid Regragui, qui l'a remis à disposition de
l'OM.
Il était rentré à Marseille afin de préparer la rencontre face à Lorient.
Mais Pavard, il est rentré le jeudi. Donc les mecs se sont vus pour la première fois le jeudi. Et le lendemain, tu as une charnière. Mmh. Donc, c'est un peu compliqué. Heureusement que c'était Lorient qui a.
Non, mais c'est vrai que. Mais... Après, Benjamin Pavard, on sait qu'il a joué un match avec l'Inter contre le Torino. Ouais. Derrière, il est parti en sélection avec l'équipe de France. Bon, il n'a pas joué ni contre l'Ukraine ni contre l'Islande, mais il est arrivé mercredi matin à Marseille. Il a signé son contrat. Bon, il avait fait la visite médicale déjà à Clairefontaine une semaine auparavant, mais c'est vrai que. C'était son premier entraînement jeudi.
Donc, voilà, c'est
il avait
sorte
un
de...
entraînement en commun avec ses nouveaux partenaires et ses nouveaux coéquipiers.
Ben, ce match-là devait servir à un entraînement, justement, une sorte d'entraînement, hein, qui, ce n'est pas le mot, c'était un match de Ligue 1, ouais. Mais en tout cas, ça a permis de...
d'essayer un peu de se trouver.
Absolument.
Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs la semaine dernière.
Mais les gens intelligents arrivent à se retrouver facilement, je pense.
Heureusement que c'est des joueurs d'expérience, voilà. Parce que ce n'est pas évident du tout. Et en plus, tu ne connais pas tes milieux qui te protègent, même si certains diront qu'ils ne te protègent pas très bien. Mais, oui. mais disons que tu ne connais pas et tu n'as pas de repères.
C'est ça. C'est surtout le manque de repères qui fait défaut et qui peut être préjudiciable dans ce genre de rencontre pour les grands débuts.
Il est vrai que le milieu de terrain reste une interrogation majeure pour cet effectif.
Ouais. C'est sûr que... Voilà, parce que... Tu avais le jeune belge Vermeeren qui débutait lui aussi. Lui aussi, il était en équipe des U21 belges.
Belge, ouais.
Donc il est arrivé le mercredi, pareil que Pavard et tout.
Ouais. Et donc, c'est vrai qu'en plus, il arrive du championnat allemand et de Leipzig. Ouais. Il a très très peu joué avec cette équipe de Leipzig avant d'arriver à l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai qu'après, il y avait un état de forme disparate au niveau de toutes ces recrues qui sont arrivées ces derniers jours.
Voilà, au niveau physique, au niveau technique et tactique, de retrouver une cohésion et, qui se crée et qui va, je l'espère de tout cœur, se poursuivre dans le travail.
C'était compliqué pour le coach, pour Roberto De Zerbi, de préparer cette rencontre et les échéances à venir.
D'ailleurs, heureusement que tu marques rapidement, donc le pénalty sur cette erreur.
Oui.
Tu te demandes comment le gars il peut faire une erreur pareille, mais tant mieux pour nous. Deuxième but de Pavard sur un coup de pied arrêté, très bien tiré par Greenwood. Oui. Un troisième magnifique d'Angel Gomez.
Un très joli but.
Très joli but avec une reprise à la suite d'un contrôle...
D'un dégagement sur une corner.
Un garçon qui n'est pas connu pour marquer beaucoup de buts, mais là, en l'occurrence, celui-ci, il vaut la chandelle.
Disons qu'il est
technique. C'est vrai qu'Angel Gomez, on ne l'a pas souvent vu dans le rôle de buteur sous les couleurs du LOSC.
Mais c'est vrai qu'il est technique et tu le vois parce qu'il a fait un très beau lob, il a bien placé son ballon, le gardien ne peut rien faire. Et tu mènes 3-0, donc ça te décontracte. Ça a permis en deuxième mi-temps de faire débuter Pechao.
Voilà, d'autres changements.
Jouer Vermeeren, Aurélie. Le problème.
Il a essayé un peu de donner du temps de jeu à toutes ces nouvelles recrues pour pouvoir arriver dans de bonnes dispositions pour le match de Ligue des Champions qu'on va évoquer dans quelques minutes.
De bonne aloi.
Et comme tu l'avais dit tout à l'heure, Thierry. Il a laissé au repos Balerdi, Rouli, qui était sur le banc. Rouli, de l'ange, il a eu un arrêt à faire.
C'est vrai que le gardien néerlandais de l'OM, il n'a pas été trop sollicité sur ce match. Donc, ça a été plutôt un match assez reposant et tranquille.
Ça a permis de ne pas s'endormir sur ses lauriers en tant que second gardien.
On en rigolait avec les collègues dans le virage. Parce que sur un second mi-temps, tu avais le ballon, il n'y avait pratiquement pas d'attaque. Il y a eu le seul tir de l'orienter, mais enfin, c'était un tir moyen. Et le mec, il sortait sur les touches pour appeler, pour faire le relanceur à 30
mètres. Justement, il a eu quelques relances.
C'est un joueur qui est bon avec ses pieds, parce que le mec, il s'est ennuyé. Mais c'est vrai que, du coup, il y a O'Reilly aussi qui a débuté.
Oui.
Et je pense que quand Guiri a été blessé dans un choc par Bamoumeité, d'ailleurs, qui appartient à l'OM et qui est prêté à Lorient, un choc où il a mis un coup de genou dans la mâchoire, il est sorti, il était KO. De Zerbi à 3-0 n'a pas fait rentrer Aubameyang, qui avait joué avec
90 minutes contre la Côte d'Ivoire avec
les Gabonais. Donc,
le Gabon.
Option fort judicieuse.
Il n'a pas fait rentrer parce que tu ne prends pas de risque, il a quand même 36 ans.
Et
donc, tu t'es retrouvé avec Greenwood avant-centre, Bilal Nadir ailier droit, alors que ce n'est pas une ailier, il manque de vitesse. Ouais. Et donc, O'Reilly qui est rentré en 10, qui a été correct sans plus. Mmh. Et ce qui fait qu'il y avait une équipe très... avec Timothy Weah, ailier gauche, qui passe son poste naturel, puisqu'il est droitier.
On va dire qu'on l'a retrouvé hier sur un poste naturel.
Mais hier, il a été plus ça dans son avantage, le fils de Mr. George, international américain.
La différence, c'est que hier, tu jouais en contre.
Ah oui.
Alors que là,
après, j'ai envie de dire, c'était pas tout à fait le même adversaire
en
face.
Oui,
donc,
c'était pas le même
forcément.
Et
après, des fois, il faut s'adapter en fonction de l'adversité que l'on a en face.
Mais des fois, lui, il était ailier gauche, donc tu devais dribbler, tu avais toujours 2-3 à l'orienter. Et c'est pas forcément un gros dribbleur et tout, c'est pas, mais il a fait un match moyen. Mais c'est vrai que c'était compliqué, et je pense que la sortie de Guerri, qui était quand même un poste de faux avant-centre qui est technique, t'a gêné, parce que Greenwood, tu vois qu'en pointe, c'est pas ça, quoi.
Non.
C'est plutôt un homme de couloir, et il t'a manqué sur son côté.
Et... mais on voit, on voit qu'il est en difficulté ces dernières semaines, Amine Guerri.
Oui, il
a quand même joué avec l'équipe nationale algérienne durant la trêve internationale, mais on a du mal à retrouver le Amine Guerri qui...
On ne saurait le positionner dans...
Qui est arrivé à l'Olympique de Marseille en début d'année civile et qui a brillé sur la deuxième partie de saison l'an passé.
Ce n'est pas un buteur, ce n'est pas un milieu de terrain, mais c'est un garçon de qualité qui a des compétences. Il a polyvalence, c'est ce qu'on attend de ses joueurs. Parce que De Zerbi attend, et nous aussi, mais en l'occurrence, lui trouver quand même un positionnement qui sera justement bénéfique pour l'ensemble de l'équipe.
Ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé les automatismes, mais il y a plein de nouveaux joueurs.
Oui.
Donc tu es un peu déséquilibré par rapport à la saison dernière, et lui, visiblement, a du mal à trouver sa place.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est toujours technique, il manque de vitesse, donc... Mais bon, comme tu ne joues pas en contre, parce que les mecs jouaient très très bas, c'est pas une
nécessité.
Il est vrai,
comme des séries, il faut s'adapter aux circonstances
de match. Et là, il a du mal, et il n'a pas été... Même avec l'Algérie, j'ai vu un match, il n'a pas été terrible. Après, ça peut être une question de
là, malheureusement, avec le calendrier démentiel qui attend les Olympiens, ça risque d'être compliqué pour Roberto De Zerbi et le staff de pouvoir... mettre en état, parce qu'on sait qu'il y a les gros rendez-vous qui vont arriver, qui vont s'enchaîner après celui du Real hier soir, dont on va évoquer dans quelques minutes.
Les entraînements se feront lors des rencontres, lors des matchs, je pense. Il va falloir faire l'impasse pour les entraînements.
Cela, c'est un calendrier démentiel, avec une rencontre à peu près tous les trois jours entre le championnat, la Ligue 1 et la Coupe d'Europe et la Ligue des Champions, avec le programme qui attend les Olympiens dans les prochaines semaines.
Jusqu'à la prochaine. Prochaine trêve internationale, tu n'as que la semaine prochaine, ou entre le dimanche tu joues à Paris et le vendredi tu joues
Strasbourg.
Un déplacement du côté de la Méno.
C'est la seule semaine où tu as toute la semaine libre.
Et oui, puisque la semaine prochaine il n'y a pas de Coupe d'Europe, c'est l'entrée en liste des clubs au niveau de la conférence et l'Europa League.
C'est l'entrée.
Compétition européenne.
Et donc nous, en Ligue des Champions, on jouera que la semaine d'après, on reçoit l'Ajax.
L'Ajax pour la deuxième journée de.
Et comme ils ont eu l'idée géniale de mettre un match contre, c'est Angers, je crois. Un mercredi en milieu de semaine, histoire
c'est le calendrier.
C'est vrai qu'après la Jax, il y a un match à Metz.
Il y a un match à Metz, et c'est vrai que c'est un problème, parce que tu dois trouver des automatismes entre tes nouveaux joueurs. Je pense, on en parlait la semaine dernière avec Franck, puisque certaines personnes étaient en vacances, je ne dirai pas le nom.
Ne citons pas de nom.
Oui. Mais c'est sûr que tu as fait aussi un gros mercato à la fin.
Ouais.
Il y a 6 joueurs. C'est aussi à cause de l'histoire Rabiot de son
départ.
Oui,
c'est vrai. Bon.
Et puis, tu as voulu amener du 109.
En même temps, les transferts étant relativement coûteux, on a attendu.
Il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'arrivées lors de cette dernière journée de Mercato, le 1er septembre. C'est vrai qu'avec 12 nouveaux joueurs, l'effectif de l'Olympique de Marseille a été largement chamboulé par rapport à l'an passé.
Ah oui, pour préparer une saison, on peut dire que c'est pas évident, mais en l'occurrence, je pense que ça va le faire, puisque ces joueurs de talent qui ont d'expérience, pour la plupart, même avec tous ces jeunes de talent, qui vont se fondre dans le moule, et nous y croyons, tout à fait.
On espère, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu problématique par rapport à des équipes qui ont pu, y compris, faire une préparation complète et qui ont des automatismes. Alors, on n'est pas les seuls, hein. Je lisais l'équipe ce matin, il parlait de Monaco qui demain joue en Ligue des Champions.
En Belgique, contre en Belgique, Bruges.
Ah, contre le club de Bruges, qui est une équipe au costaud. Comme
une équipe habituée des joutes européennes. Oui, voilà. Voilà, ben, saluons quand même le football belge avec la victoire de l'Union Saint-Gilloise hier du côté du Philips Stadion face au PSV Eindhoven. Et d'ailleurs, l'Union Saint-Gilloise qui sera adversaire de l'Olympique de Marseille dans cette phase régulière de Ligue des Champions.
Ouais, il n'y a pas de match aisé, de match facile dans cette compétition. Oui.
En janvier, on les joue et Bruges, on les joue, je crois, fin novembre.
Les deux équipes belges.
Voilà, c'est vrai que ces deux équipes belges dont il va falloir se méfier énormément l'Olympique de Marseille.
Et en fait, il n'y a pas de match facile, on l'a vu hier, c'est Karabakh qui gagne à Lisbonne contre Benfica.
Et d'ailleurs, cette défaite qui a coûté la place à Bruno Lage. Et c'est vrai qu'on parle d'un éventuel retour de José Mourinho sur le banc
des
aigles
du
Benfica. José Mourinho qui a été démis de ses fonctions il y a quelques jours encore de Fenerbahçe.
C'est donc libre de contrat.
Voilà.
Justement à cause d'une élimination en dernier tour de qualif pour la Ligue des Champions.
Ouais.
Ils se sont fait sortir et du coup, lui, il a sauté. Quoi.
Benfica qui avait sorti l'OGC Nice lors du troisième tour préliminaire.
Et donc, il va falloir un certain temps pour trouver des équilibres, et c'est sûr que c'est embêtant, mais tu n'as pas le choix.
Des hommes de bonne volonté qui vont produire cela et qui vont le créer, cette émulation déjà qui existe. Hier, ça fait peut-être partie de cet ensemble qui va se créer.
Voilà, ben, on est déjà à la moitié de l'émission, donc on va attaquer le gros morceau, donc le match de Ligue des Champions hier soir avec cette défaite qui est 2-1 avec deux pénalties de Kylian Mbappé. Voilà, l'Olympique de Marseille qui s'est retrouvé même en supériorité numérique après l'expulsion de Dani Carvajal qui est rentré en cours de jeu, le latéral espagnol du Real. Voilà, et donc l'Olympique de Marseille qui avait ouvert le score à la 22e minute grâce à son attaquant international américain Timothy Weah qui joue parfois à plusieurs postes.
Oui, on a été surpris, mais là, on l'a retrouvé dans une position, justement, qui était superbe, puisqu'en tout cas, il a marqué ce but magnifique.
Oui, oui, il a fait, et qui avait fait un début en championnat mitigé.
On peut le dire.
Et on disait, on le met ailier gauche, c'est pas, il est droitier, il joue plutôt à droite. Et d'ailleurs, ses dernières saisons à la Juventus, il a plutôt joué piston qu'ailier.
Ouais, pour trouver des automatismes, c'est pas simple.
Mais c'est quand même un joueur d'expérience qui a de la bouteille et qui a fait un très bon
match.
Et
c'est vrai qu'on était un peu inquiet parce qu'en plus, il me semble qu'il est revenu blessé de la trêve internationale avec sa sélection américaine. Donc, on avait quelques doutes, mais bon, finalement, il s'est remis sur pied et il s'est rétabli assez rapidement.
Vu la composition d'équipe, mais bon, finalement...
Oui, il a fait comme tu disais à Gerd, c'est-à-dire qu'il a fait le premier match, il n'a pas fait le second, il est rentré parce qu'il avait eu des douleurs, donc il est rentré. Mais hier, il a fait un très bon match.
Oh, oui.
Et moi, j'ai beaucoup aimé son but. Alors...
Tu n'es pas le seul.
C'est l'action de Greenwood qui est géniale.
C'est vrai qu'il est magnifiquement lancé par
l'ensemble
par Mason Greenwood sur cette ouverture du score olympienne.
Mais enfin, il a fait un bel appel croisé. Il est passé dans le dos et il a appelé sur le côté
justement,
droit.
Justement, on sent des automatismes qui se créent.
Et l'autre lui a fait une très belle passe, mais il t'a mis un
cachou. C'est vrai qu'il a réussi à mettre le ballon hors de portée du gardien belge du Real, Thibaut Courtois.
Voilà, senti l'appel dans le dos et justement, Greenwood de lui a donné ce ballon de fort belle manière.
Et moi, ce que j'ai apprécié sur Timothy Weah, c'est que Carvajal est rentré à la cinquième, quand l'Anglais Trent Alexander-Arnold...
Oui, c'est vrai qu'au bout de la quatrième minute, l'ancien joueur de Liverpool s'est blessé, donc Dani Carvajal est rentré assez rapidement.
Il est rentré très vite.
Pour repartir également.
Il a fait du Carvajal, c'est-à-dire qu'il a commencé à chercher à filer.
Mais c'est vrai que c'est un geste impardonnable face à Jérôme mon roulier. Même, c'est vrai que l'arbitre bosnien, M. Pelkrito, qui est allé visionner les images sur le VAR, oui. Je pense que l'expulsion, elle ne faisait pas l'ombre d'un doute.
D'ailleurs, c'est même... on peut se demander pourquoi il a mis 5 minutes pour sortir.
C'est vrai, c'est pour ça. Moi, ce qui m'a surtout interpellé, c'est le temps qu'il lui a fallu pour exclure le latéral
totalement
espagnol.
Totalement d'accord avec toi, Patrick, que... également. Je n'ai pas compris cela. Ouais.
Ça a pris plus de temps que prévu, alors que quand on voit les images à travers le diffuseur...
Il met un coup de boule.
Je veux dire, ça souffre d'aucune contestation, ce coup de tête à l'égard de Jeronimo Rulli.
Voilà, c'est surprenant qu'un joueur de cette expérience, ouais, qui en plus est connu pour être un brancheur...
Oui. C'est vrai qu'en plus, c'est un joueur qui a été gravement blessé, qui est revenu très peu de temps.
Oui, hein. Il y a très peu.
Il revient d'une rupture des ligaments croisés. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas joué pendant pratiquement un an. Hein.
Ouais. Un coup de chaud sur cette action-là. Ouais. Malheureusement,
surprenant parce qu'en plus, ouais, quand tu regardes les images, moi j'ai re-regardé ce matin... tu n'as pas l'impression, c'est sur une corner, il vient, montre hein, qu'il faut le marquer parce qu'il vient, gêner la sortie du gardien.
Et à ce moment-là, il y a un but partout.
Oui, on était 1-1.
Il reste à peu près une vingtaine de minutes dans le temps réglementaire.
Voilà, et il y a le match a été correct, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de problème. Oui. Et ils viennent et... Et il pousse un peu Rulli qui le pousse. Mais c'est des trucs qui se font.
Peut-être un mot ou deux déplacés.
Apparemment, j'ai entendu que la presse espagnole avait évoqué des insultes de la part du gardien argentin de l'OM.
On peut parler de probabilité à ce niveau-là.
Je ne sais pas. En tout cas, les images nous prouvent qu'il y a... C'est difficile à se faire une idée à ce niveau.
Les images, tu ne vois pas, c'est très rapide. En fait, ils ne se parlent pas. Ils se disent du genre « dégage connard ». Voilà, un truc comme ça.
Un
joueur de 33 ans qui a fait 15 ans au Real Madrid.
Qui a quand même de la bouteille, international espagnol, qui a été
champion d'Europe,
qui a gagné la Ligue des Champions avec.
N'a pas le droit d'avoir un tel comportement.
C'est lui qui s'approche tête contre tête, Rulli, qu'est-ce que tu veux, truc comme ça.
Il y a dû avoir des mots qui ont été échangés, ça explique pas le geste.
C'est un coup de boule, je veux dire.
C'est un geste impardonnable à ce niveau de la compétition.
En tout cas, les Argentins...
C'est le genre de geste qu'on n'aime pas voir sur une pelouse, et surtout dans une compétition telle que la Ligue des Champions.
Je regardais...
En plus, sur des joueurs aussi reconnus que ceux-là.
Voilà, ce matin, déclaration de Xabi Alonso, l'entraîneur
du Real. Le nouvel entraîneur basque
il a dit que c'était une erreur impardonnable et qu'il faudrait en parler. Donc, je pense que dans le vestiaire, Carvajal, il va se faire remonter les bretelles parce que tu laisses quand même ton équipe à 10, à 1 partout.
Nous n'avons pas bénéficié de cette situation, malheureusement.
Oui. Et j'ai eu l'impression, après vous allez.
C'est vrai que pour un grand club, une institution telle que le Real.
C'est surprenant.
C'est pas vraiment pardonnable.
Et quand on voit le geste de la part du latéral espagnol, je pense qu'il va se faire remonter les bretelles.
Méchamment. Et nous, je pense que l'OM, on a eu un moment de doute après. Est-ce qu'on attaque pour essayer de gagner ou est-ce qu'on tient le nul?
On ne savait pas quoi faire
résultat,
si on continue à attaquer.
Et on a été un peu entre les deux jusqu'à ce qu'on prenne le second pénalty dont je pense qu'on va parler.
Justement, sur ce deuxième pénalty, depuis hier soir, on a entendu beaucoup de choses.
Bon, la polémique va bon train et elle est légitime en l'occurrence.
Déjà, il y a eu la déclaration de Roberto De Zerbi qui s'est présenté en conférence de presse après match et qui a dit que ce pénalty concédé par Facundo Medina était proprement scandaleux, donc ça jette encore.
Mehdi
Benassia aussi qui s'est présenté en zone mixte.
De manière plus élégante.
Oui, mais à l'UEFA, si jamais tu dis l'arbitre s'est planté, c'est un con.
Non, mais ils ont su tenir leurs propos.
Tu prends vite.
Oui, mais après, il faut savoir. Il faut avoir se tenir.
Il faut savoir se tenir. Et je pense que d'ailleurs, parce que ça. ça plaît pas, puis tu as quand même
le... Après, on n'est pas à l'abri d'une éventuelle sanction de la part des instances européennes.
Tu as le Real Madrid en face. Tu aurais l'Union Saint-Gilloise.
C'est sûr que si ça avait été un adversaire d'un autre calibre, je ne pense pas que la polémique aurait enflé de la sorte.
Sans parler de polémique, on peut parler médias espagnols, sauf évidemment le média madrilène, était unanime sur le fait que...
Mais quand on voit quand même après le match...
Ce n'est pas forcément une décision fort juste, en tout cas très très sévère.
Ouais. Parce que quand on voit quand même le quotidien madrilène pro-Real Marca, ne pas le citer, quand on voit les déclarations d'après-match sur le site du quotidien, il y a quand même de quoi se poser des questions.
Oui, mais le truc, c'est que...
Après, nous, de notre position de supporter de l'Olympique de Marseille, de France, on n'a peut-être pas la même vision des choses, mais bon.
Mais enfin, c'est vrai que moi, je regardais...
C'était plus qu'orageant, le terme a été employé à plusieurs reprises.
Les déclarations. Xabi Alonso, il a dit que pour une fois que ça tournait pour eux, on n'allait pas me faire un flan. Et Mbappé a dit, c'est une zone d'ombre. Moi, il siffle péno, je le tire, je le marque.
Bigre.
Mais voilà.
Et je pense qu'on aurait été à sa place.
On aurait fait pareil. Ouais, mais d'ailleurs,
on ne se serait pas posé trop de questions. Mais bon.
Geronimo Rulli, il touche le ballon d'ailleurs sur le second. Le premier. Mais le second, il le touche et il lui manque peut-être quelques 2-3 cm pour arriver à la sortir, à la détourner.
Ce qui m'a permis d'avoir
Il a presque effleuré, mais bon, c'est vrai que ça ne se joue à pas grand-chose, ce pénalty de Kylian Mbappé.
Il a quand même mis bien dans le petit filet et il n'a pas mis une passe. Mais c'est dommageable parce que c'est typiquement l'action. Moi, ce qui me fait râler, c'est qu'en première mi-temps, il y a une frappe, c'est Kondogbia qui frappe, et c'est Militao qui détourne du coude.
Je me souviens de cette action.
Il a le coude collé au corps, mais il détourne le ballon en pleine surface du coude. Et il fait un geste, il se tourne pour se protéger ou autre, et il détourne le ballon. Et là, c'est exactement le même type de situation, c'est-à-dire qu'il tacle Medina. Il touche le ballon avec le pied, le ballon, il le dégage, enfin, il le contrôle. Et le ballon roule, et comme il est à terre, puisqu'il a taclé, le ballon vient...
Le truc, c'est qu'il n'a pas mis la main au sol, qu'il n'a pas touché le sol avant... Oui.
Mais c'est vrai que le ballon lui revient sur la main de manière involontaire.
Oui,
donc après, c'est l'interprétation de l'arbitre.
Et la question que se posent les réseaux sociaux et autres... Alors, les réseaux sociaux...
Et nous-mêmes.
Et nous-mêmes.
Mais je pense que depuis hier soir...
Ce que disait les copains avec qui j'ai regardé le match... si c'est de l'autre côté, est-ce qu'il y a pénalty? Voilà. Tu es à Madrid, c'est le Real. Est-ce que si c'est de l'autre côté, le ballon contré de Militao en première mi-temps, l'arbitre, il dit jouer.
Ça lui a échappé.
Permis-moi d'en douter.
Mais c'est vrai que si le même type d'action avait été en faveur de l'OM, quelle aurait été la position de l'arbitre et la décision prise?
C'est toujours le problème que tu as. Et comme c'était dit, puisque après en zappant, on a regardé l'équipe, c'était Johan Micou, qui n'aime pas le Real Madrid, qui disait une fois de plus, le Real Madrid est favorisé. D'ailleurs, Mehdi Benatia en a parlé, puisqu'il était du match...
Sur le match précédent, contre la Real Sociedad, dans le jeu, semble-t-il.
Mais il était du match en Ligue des Champions avec la Juve contre le Real, où ils sont éliminés en quart de finale, je crois. Sur un pénalty à la 93e à Bernabeu, un pénalty,
Mais c'est vrai que bon, après, on sait quand même que.
Après, tout prête à discussion, mais quand il y a une faute sans discussion, c'est ce que nous attendons. Mais là, malheureusement, ce n'était pas le cas pour ce second pénalty.
Voilà. On pense qu'il y a quand même des bonnes relations. Je veux dire, on a un président espagnol, Pablo Longoria, qui s'est déplacé à Madrid il y a quelques semaines pour aller chercher un joueur du Real qui malheureusement n'est pas venu. Dani Ceballos, pour ne pas le citer, qui était remplaçant hier soir lors de ce match.
Mais là, ça vient du corps arbitral.
Et c'est vrai que l'image que j'ai vue, c'est quand le diffuseur a montré Pablo Longoria dans la tribune aux côtés de Florentino Pérez, le président du Real de Madrid. C'est sûr qu'avec cette défaite et ce premier match de Ligue des Champions qui laisse un goût amer à l'OM,
on peut le souligner. Espérons qu'on ne regrettera pas le point Parce que gagner, ça aurait été compliqué. Bon,
après, c'est vrai que maintenant, il va falloir passer à autre chose. Ouais, il y a un gros match qui nous attend dimanche en Ligue 1 avec la réception du PSG.
Je pense véritablement qu'il faut positiver cette situation. Oui. Elle ne peut être que bénéfique pour nos joueurs et notre groupe.
On était quand même nombreux dans les supporters.
Il y avait 4000 supporters, on peut le rappeler pour nos auditeurs, qui avaient fait le déplacement dans la capitale espagnole. Donc, apparemment,
qui pouvait imaginer, malgré ce, que l'OM l'emporte peut-être sur un coup de dé, mais on y croyait.
C'est vrai qu'on donnait pas cher de la peau des joueurs de Roberto De Zerbi. Et puis bon,
après,
à l'arrivée.
Après avoir vu la première demi-heure, les 20 premières minutes.
Oui, tu n'en menais pas large. Disons qu'on tombe avec les honneurs. Ce matin, l'équipe.
C'est un match qui laisse des regrets.
Voilà, qui laisse des regrets. Espérons que le point qu'on aurait dû prendre.
Absolument.
Ne nous manque pas à la fin, mais on a fait un match sérieux, on a été à la hauteur. Mm-hmm. En plus, moi j'ai apprécié, c'est qu'on a essayé de jouer, on n'est pas resté à filer des coups à tous derrière, on a essayé de sortir, ce qui nous a mis en danger en début de match parce qu'on s'est fait intercepter.
On voit que quand même Roberto De Zerbi, au moment de la... il a voulu passer un message auprès de ses joueurs pour vraiment aller inquiéter cette équipe du Real.
Finalement, notre projet de jeu reste similaire et on n'a pas dérogé à ce projet de jeu, peu importe l'adversaire. Et j'ai trouvé ça de la manière magnifique qu'on... le comportement de nos joueurs, peut-être nouveau.
Parce que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui disaient qu'on allait se faire humilier, voyait un score large et, fleuve en faveur du Real, et finalement,
fermer le jeu, on a continué notre jeu, justement, relancer très rapidement.
Ça c'est le côté très positif, c'est-à-dire tu as joué, tu n'as pas pris la rouste, tu as failli battre le Real, ils ont tremblé. Ils ont
on est resté fidèles à nos principes.
Voilà, ils ont eux-mêmes reconnu que le match était difficile. Donc c'est très positif pour le moral. Parce que c'est quand même une équipe qui est en construction.
Après, j'aime pas dire ça, mais bon, j'ai entendu Roberto De Zerbi dire qu'en conférence de presse d'après match, c'était une défaite encourageante. Oui, alors que généralement, il y a du positif des fois dans une défaite, mais j'aime pas dire qu'une défaite est encourageante.
Il est vrai que...
C'est vrai que c'est une défaite sur laquelle on s'appuie pour essayer de préparer le prochain match et la réception de l'Ajax au Vélodrome dans deux semaines.
Mais c'est un commentaire que l'on ne doit pas dire, justement, si on peut le penser.
C'est interne.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
entre nous, dans le vestiaire, tu dis c'est encourageant parce qu'on a montré des choses. Après, grand public, défaite encourageante, c'est un peu...
Non.
Pour les supporters, j'ai l'impression que ça passe mal. C'est le genre de message qui reste un peu en travers la gorge quand on entend une déclaration de la part du coach.
Mais moi, je sais que, par exemple, il y a eu des trucs sur le match de Lorient, donc vendredi. L'entraîneur de Lorient, ils avaient pris 7 buts chez eux contre Lille. Hein. Une dégelée monumentale. Ouais. Et quand ils étaient menés 3-0 à la mi-temps à 10 contre 11, il a déclaré, après, je l'ai vu à Ligue 1 Plus, il a dit, j'avais dit, on essaie de ne pas perdre la deuxième mi-temps. Mm-hmm. Ils prennent un but dans les arrêts de jeu. Mais ils tiennent. Ils tiennent au courage, mais ils tiennent. Et ça, c'est important pour le mental d'une équipe. On s'est soudé, on n'a pas reculé, on n'a pas pris la valise.
Le terme est bien choisi.
Voilà, ça c'est bien.
Ça permet justement à nos joueurs de se souder.
Ce genre de match
hier,
où tu expliques que sans un pénalty douteux, tu ramènes un match nul de Madrid. C'est un truc qui doit t'aider à...
Bien sûr, c'est un acte fondateur dans ta saison. Justement. Et surtout, c'est quand même...
Il faut positiver cette situation.
C'est peut-être un match référence sur lequel on peut s'appuyer pour préparer la suite de cette compétition et les échéances à venir en Ligue 1.
Voilà, Thierry, ce qui aurait pu être dit par notre staff technique, plutôt que de dire que c'est une défaite encourageante.
Oui, c'est vrai. Après, il y a eu les déclarations de Mehdi Benatia qui s'est présenté en conf en zone mixte après le match, bon.
Non, mais après, c'est sûr que quand tu sors d'un match...
On est à chaud.
Voilà. Non, il y a peut-être beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume la physionomie et le déroulement.
Il faut raison garder dans ses propos. Ouais.
Parce que je pense qu'à un moment donné, quand tu as l'expulsion de Carvajal, tu te dis, on est à 1 contre 1, il reste 20 minutes, 11 contre 10...
Un but partout, donc on se dit,
partout,
il y a peut-être, il y a la place pour peut-être aller chercher un bon résultat et une victoire.
Et oui, 5 minutes après, tu te prends un péno en bois et tu te retrouves mené.
Malheureusement, c'est les joueurs qui se sont retrouvés, comme tu le disais, en
mais
deux
bon,
jours.
Espérons que ça nous permette de confirmer, parce que c'est le match de dimanche contre PSG qui va, être déterminant.
Il me semblait,
Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce match de Ligue des Champions hier soir ou parler de la réception du PSG dimanche. Le PSG qui fera son retour en Ligue des Champions ce soir au Parc face à l'Atalanta Bergame pour cette première journée de phase régulière de Ligue des Champions. Voilà. Et le PSG qui sera amputé de quelques titulaires. Hein. On sait qu'il y a quelques joueurs qui sont blessés dimanche face à la Lens. Donc, je ne sais pas comment vous voyez ce match pour l'OM et côté parisien aussi. On verra de plus près ce que ça va donner ce soir, l'entrée, hein. Le retour des champions d'Europe de Luis Enrique sur la pelouse du Parc face à la Talanta Bergame.
Ça sera sans moi devant le petit écran. Mes horaires de travail ne le permettront pas. Mais une chose est sûre, c'est que j'anticiperai pour le match face au Paris Saint-Germain.
Et disons que pour le match contre Paris, la certitude, c'est que Doué et
Dembélé, on sait que les deux blessés en équipe de France seront absents pour encore quelques semaines.
Ce qui pour nous est une bonne chose, parce que c'est quand même deux attaquants de qualité. Kvaratskhelia, il devrait rejouer.
Apparemment, il y a une incertitude concernant le match de l'Atalanta ce soir. Mais visiblement, dimanche, c'est plus par précaution que le staff médical a sorti dimanche face à Lens.
Moi, j'ai vu les images quand il sort. Il prend
Il a une belle entaille au niveau
du mollet.
Du mollet. Mais bon, c'est peut-être plus par précaution.
Il joue sans protège tibia.
Luis Enrique, il ne devrait pas. Il n'a pas le droit.
J'ai remarqué qu'il a souvent les chaussettes baissées. L'attaquant géorgien.
Il a pris un tacle sur le mollet, mais l'arrière du mollet. Alors qu'il a le protège tibia devant sur le tibia. Donc, ça lui fait une belle estafilade. Mais ça n'empêchera pas de jouer dimanche. Par contre, sera-t-il à 100%? Ça dépend de s'il peut s'entraîner.
Ben on verra déjà si jamais Luis Enrique le titularise ou lui donne du temps de jeu ce soir.
Avec Abondance de bien ne nuit pas, donc il a de quoi faire, Luis Enrique, avec cette équipe.
Mais disons que l'absence de Doué Dembélé t'ouvre une perspective, tu as moins d'écart. Parce que Gonçalo Ramos, c'est un très bon attaquant. Mais
c'est pas non plus la panacée au niveau.
Mais c'est vrai que l'attaquant portugais était sur le départ il y a quelques semaines. Et puis je pense que... avec ce but et cette prestation en Italie lors de la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, il a mis tout le monde d'accord et les dirigeants à ce moment-là, je pense que Luis Campos, Luis Enrique et tout l'état-major parisien a décidé de le conserver, au même titre que l'international coréen Lee Kang-in, qui s'est blessé aussi et qui...
Mais qui, lui, d'après
qui,
les...
Qui est certain pour la réception de l'Atalanta ce soir au Parc.
Il est dans le groupe, il devrait être sur le banc. Mais donc, ça veut dire que dimanche soir, il doit pouvoir être disponible. Mais après...
Chaque chose en son temps, ça va arriver très très vite.
C'est quand même un truc, c'est que défensivement, Dembélé, c'est pas Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, c'est un avant-centre classique.
C'est sûr qu'on ne parle pas du même profil de joueur.
Tu lui mets Pavard à guerre dessus, il aura du mal. Dembélé, il décroche beaucoup. Il plonge beaucoup, ce qui est plus compliqué à gérer.
Et sur la présence de Naïef Aguerd, qui a eu un protocole commotion après la réception de Lorient, qui était forfait hier soir à Madrid, on a la certitude qu'il sera de retour pour la réception de Paris dimanche, parce que ce serait un coup dur. Ce serait un sacré coup dur pour Roberto De Zerbi et l'OM s'il ne pouvait pas tenir sa place
face au PSG. Parce qu'il est sorti avec... il aurait fallu peut-être lui demander de sortir bien avant, mais il n'a pas souhaité justement. Donc De Zerbi l'a écouté.
Et je pense qu'à mon avis, il aimerait bien affronter son ami de la sélection et capitaine, Achraf Hakimi.
Mais d'après... Son homologue du même poste.
D'après les nouvelles qu'on a eues, parce que on a tous été surpris parce que j'ai pas vu le choc dans le match contre l'Orient. Il semble que ce soit un choc tête contre tête avec
il y a aussi l'absence de l'Ivoirien Ahmed Junior Traoré. Qui était absent hier soir à Madrid et pour l'instant
et lui il devrait pas être là parce que
Sa blessure est plus importante.
Oui, oui, voilà. C'est un problème musculaire.
Ah oui, ben, mais... Ahmed Traoré, donc on peut confirmer pour nos auditeurs un forfait pour la réception de Paris dimanche soir.
Mais Aguerd, il a
vite entré dans le bain avec notre équipe, mais bon, là, il a le temps de se reposer.
Aguerd, c'est un choc. Ouais. Ouais.
Après, le staff médical a estimé que rejouer un peu plus de 72 heures, c'était quand même risqué.
Non,
donc,
il ne faut pas précipiter les
choses. Parce que, quand même, il s'est assis à un moment, on a, en seconde mi-temps, on n'a pas compris parce qu'on n'avait pas vu le choc. Et
c'est vrai qu'en plus, il a tenu à terminer la rencontre. En plus, il a marqué un but dans les dernières minutes, je crois, il me semble, dans le temps additionnel. Donc, c'est vrai que c'est presque passé inaperçu.
Mais maintenant, il y a des règles strictes sur les protocoles commotion. Donc, il a passé des examens. Si on n'a pas annoncé le forfait, c'est que théoriquement, ça va, c'est un choc. Et tu ne le fais pas jouer à Madrid parce qu'il y a des risques, on ne sait jamais.
Ouais, c'est vrai que là, peut-être au niveau timing, ça faisait un peu juste.
Ça fait 10 jours après, quoi.
Voilà, là, avec la réception de Paris, on sera 9 jours après ce match face à Lorient. Donc, je pense que pour le staff médical, c'est plutôt bon et encourageant. Voilà.
Théoriquement, il devrait être apte. Après, c'est le staff médical qui dit s'il y a le moindre risque et tout, il ne faut pas prendre de risque. Tu ne prends pas de risque avec.
Après, il faudra voir aussi un peu les états de forme au lendemain de ce match face au Real. On sait que les joueurs sont rentrés sur Marseille aujourd'hui.
Ça va très très vite. On en saura plus dans un jour ou deux déjà. Voilà. Et en même temps.
C'est vrai que là, ils ont 3-4 jours pour préparer ce gros match et cette réception
très,
du PSG.
Vite, dimanche.
Après, à mon avis, ça sera des choix tactiques parce que si tu mets Medina arrière gauche sur l'ailier droit, qui sera ou Kanginli ou Barcola si Barraskelia est titulaire et tout, c'est un gros défenseur. Si tu choisis de mettre Emerson qui a été
même très bon.
Très bon contre le Real.
C'est vrai qu'on a été surpris de voir l'ancien coéquipier de Naïf Aguerd à West Ham, ancien joueur de Chelsea, Emerson Palmieri, qui connaît la Ligue 1 puisqu'il est passé par l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que c'est un joueur expérimenté, donc je pense que c'est peut-être pas pour rien que Roberto De Zerbi l'a titularisé hier soir face au Real.
Nous le pensions peut-être plus offensif sur des qualités de ce type, c'est un excellent gestionnaire de jeu.
Sur ce qu'on a vu, la tactique, c'était quand tu as le ballon, tu reviens à trois défenseurs, puisque Pavard reglisse dans l'axe. Medina joue stopper gauche et Balerdi axial. Et lui, il était piston. Et c'est son poste préféré, piston. En équipe d'Italie, il jouait piston. Il a une très belle technique.
Il a gagné le championnat d'Europe en 2021.
Il en a gagné des titres, ce joueur.
C'est un joueur qui a un palmarès immense.
Il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Et donc, c'est un bon joueur. Mais le choix, c'est un joueur plus...
C'est vrai que c'est un joueur qui est un petit peu en perdition. Ça fait un petit moment qu'il ne joue plus en sélection italienne.
De ce côté gauche, alors, qui va t'en utiliser ?
C'est vrai que ces dernières semaines, on le voyait moins du côté de Londres avec cette équipe de West Ham.
Mais c'était une défense à 4. Donc peut-être,
c'est vrai qu'on ne pourra pas tous les aligner face au PSG, donc il va falloir faire des choix, et je pense que Roberto De Zerbi,
si tu choisis des
choix de riches.
Alors voilà,
c'est plutôt lui côté gauche parce que c'est un piston,
c'est ce que je pense,
et
également
peut-être Weah ou Murillo à droite, il n'y a pas de problème, mais trois défenseurs. Si tu joues à 4, ça serait plutôt Medina meilleur défenseur. Ça dépend, et après
très très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, 3 minutes avant
après,
de rendre l'antenne.
Moi, le problème, ça serait plutôt les milieux devant la défense qui me pose question.
C'est un souci majeur, les milieux de terrain, parce que Holberg isolé, avec qui à côté de lui?
Voilà, et c'est vrai qu'Angel Gomez est très beau technicien,
mais un peu frêle.
Angel Gomez, il n'a pas joué hier soir face au Real.
Manque de physique peut-être.
Voilà. Et concernant le Danois et coéquipier de Pierre-Emile Højbjerg, Matto Rajle, qui était titulaire hier soir, on le reconduit face au PSG dimanche soir ou pas?
Il va falloir qu'il fasse ses gammes, même si ce n'est pas le match d'hier soir qui va le promouvoir au niveau, mais
moi perso, j'aimerais que tactiquement, c'est un choix tactique, Parce que voilà. Milieu parisien, c'est le point fort. Hein.
Ah ben c'est sûr qu'avec João Neves, Fabián Ruiz et voilà. Vitinha,
c'est monstrueux.
Rien que
et si toi, tu as deux,
c'est vraiment le point fort de cette équipe parisienne.
Si tu as deux milieux,
ce n'est pas notre cas.
En face, tu es mort. Donc ça veut dire que peut-être il faudrait mettre une troisième.
Et oui.
Ce que faisait très bien Rabiot. C'est-à-dire qu'en fait, il était censé Mandy.
Ne retournons pas le couteau dans la plaie.
Et il revenait,
après, peut-être.
Il revenait beaucoup des fans.
Oui, Matt O'Reilly dans le rôle de meneur, un peu comme le faisait Adrien Rabiot.
Éventuellement, on a même émis une idée il y a quelque temps. Pourquoi pas Balerdi. Alors là, c'est une gageure de le mettre en 6, entre guillemets. Oui. C'était une éventualité.
C'est une éventualité, mais il va falloir faire des choix parce que. Le problème à Paris, leur point fort, c'est le milieu.
Ouais.
Si tu laisses le milieu, ils te mangent. Et là, tu prends les vagues et ça devient beaucoup plus difficile. Surtout qu'ils ont deux arrières latéraux, Hakimi et Nuno Mendes, qui sont monstrueux dans le jeu offensif.
C'est le milieu qui va être problématique.
Et toi, on sait que tes ailiers, Greenwood en particulier, ils défendent de manière... Hier, il s'est battu.
Il était plus impliqué qu'à la coutumée.
Mais disons que voilà, c'est compliqué. C'est un choix tactique qui va être fait.
Bon, ben, on verra comment Roberto De Zerbi va articuler son équipe pour ce match dimanche.
Voilà. On en parlera la semaine prochaine.
Voilà. Ben, on arrive au terme de cette émission. C'est passé tellement vite cette première. Il y avait énormément de choses à évoquer. Donc, l'actualité était riche. Donc, voilà. Ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de 100% foot. Et on reviendra donc, sur ce classico qui nous attend dimanche soir avec le PSG et on reparlera aussi un petit peu du championnat avec le déplacement à Strasbourg aussi qui nous attend.
Cet enchaînement de matchs, ces deux journées vont être assez...
Il y a un calendrier surchargé pour l'Olympique de Marseille, donc on n'a pas fini de d'évoquer cette actualité riche et dense sur le calendrier olympien. Allez, on vous laisse, bye bye et à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir, merci.